Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Conseil national de transition, quelle analyse de la clé de répartition des membres? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nous avons trois invités. Baïla Niang, constitutionnaliste, Fatima Maïga, présidente de la coalition des femmes leaders du centre du Nord et du Sud, Dr Brema Ilidiko, sociologue, professeur à l'université de Bamako, sera au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs, invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le grand dialogue.
Près de deux mois après la prestation de serment des autorités transitoires, le Conseil national de transition n'est toujours pas mis en place. Les modalités de désignation de ses membres ont été définies avant-hier. Deux décrets sont signés par le président de la transition. À cet effet, l'organe législatif transitoire qui fera office d'Assemblée nationale sera composé de 121 membres, dont 22 agents des forces de défense et de sécurité pour une période de moins de 18 mois. Lundi, Moussa Diallo revient sur la répartition des postes. On va écouter son papier.
Les forces de défense et de sécurité se taillent 22 sièges. Elles sont suivies par les partis et organisations politiques qui occupent 11 postes. Le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP sera représenté dans ce conseil par 8 personnes. Quant aux organisations de la société civile, elles auront 9 postes. Les groupements de jeunes seront représentés par 4 membres. Le même nombre est prévu pour les femmes aussi. Toutefois, le document précise que la représentativité des femmes est une obligation pour toutes les composantes. Les mouvements signateurs de l'accord pour la paix auront 5 postes dans ce Conseil national de transition. 4 postes sont prévus pour les mouvements de l'inclusivité et organisation de défense des droits de l'homme. Plusieurs autres couches de la société seront également représentées au sein de cet organe législatif de la transition. 3 postes reviennent aux personnes vivant avec un handicap. 6 pour la diaspora. Les centrales syndicales auront 4 sièges et 7 postes reviennent aux syndicats libres et autonomes. Les ordres professionnels occuperont 3 fauteuils et les confessions religieuses seront représentées par 3 personnes. Ainsi, les autorités traditionnelles, chambres consulaires, les fêtières de la culture auront respectivement 5 sièges. Enfin, 4 places seront accordées aux fêtières de la presse.
Monsieur Baïla Niang, vous êtes constitutionnaliste. Cette clé de répartition des membres du Conseil national de la transition répond-elle au contenu? Est-ce qu'elle est conforme au contenu de la charte de la transition?
Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. C'est bien sûr conforme à la charte, puisque la charte dit qu'il y aura un Conseil national de transition et qu'il y aura 121 membres, et qu'ils seront désignés. Maintenant, la chose étant que sur les 121 membres, les militaires ont eu 22, et les autres se sont partagés les 100 et quelques, les 99 restants. Bon, moi, je crois que ça a été réparti selon la charte de la transition.
22, c'est pas trop pour les forces de défense et de sécurité?
Non, bon, moi, je crois qu'il faut qu'on essaie de sortir un peu de notre jugement souvent intempestif des militaires. Vous voyez, les militaires, les militaires, c'est un service public pour qui est là pour défendre les intérêts de l'État. Maintenant, si les intérêts de l'État comprennent aussi la sortie des crises, moi je crois que si les militaires ont 22 et les civils ont plus de 80, je ne vois pas trop de problèmes.
Donc cette clé de répartition ne vous pose pas problème?
Non, ça ne me pose aucun problème.
Est-ce qu'elle vous pose problème à vous, Fatima Maïga?
Écoutez, est-ce qu'elle me pose un problème en tant que représentante d'un mouvement féminin? Je devrais me sentir satisfaite au nom des femmes et au nom de tout le plaidoyer qu'on a mené, puisque mécaniquement, même en ne mettant qu'une femme dans les 19 catégories, on pourrait se retrouver à 20 femmes. Mais si on en mettait deux, peut-être qu'on s'approcherait du quota de 30%. Et pour ça, on pourrait se satisfaire. Mais il y a certains aspects qui nous gênent. Il y a un bloc qui ressort comme étant principalement le grand gagnant, si on peut parler comme ça, c'est quand même les forces de défense et de sécurité. Et il me semble que c'est un peu en porte-à-faux avec l'esprit quand même de cette transition qui devait être une transition, avant tout une transition civile. Aujourd'hui, je ne pratique pas la langue de bois, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a vraiment une prééminence des forces de défense et de sécurité au niveau de l'exécutif. Ils sont un bloc fort parce qu'ils occupent des postes très stratégiques, notamment l'administration territoriale qui va être en charge des élections. Ça fait poser beaucoup de questions. Et on sait aussi qu'il y a eu à peu près 70 nominations par décret, et c'est essentiellement également des militaires, des officiers certes, mais ça pose la question fondamentale de savoir pourquoi autant de militaires dans ce conseil qui a une fonction législative. Qu'est-ce qu'ils vont faire et pourquoi est-ce qu'ils doivent être en nombre supérieur à toutes les autres catégories? Ça, c'est une question qui nous interroge.
Brima Ilidiko, quelle analyse faites-vous de cette composition du Conseil national de transition qui n'est pas encore mise en place, je précise?
Bien, merci pour l'invitation. Je voudrais saluer mes co-débatteurs. Quelle analyse je fais? Donc, je rejoins la dernière intervenante. Hein. Moi, je ne suis pas surpris que les militaires dans ce conseil se taillent un peu la part du lion. C'est-à-dire que qu'ils soient des Maliens comme d'autres, je conçois bien. Mais pourquoi les militaires vont prendre 22 postes au nom de quelle représentativité? Parce que le Mali, quand même, n'est pas composé que des militaires. Pourquoi, par exemple, même la question des femmes, même si c'est précisé que dans les autres organes, les femmes doivent être représentées, on aurait simplement dit, par exemple, indiquer le nombre de femmes par catégorie aussi, on aurait pu le faire, dans le sens de respecter justement la loi des 30%. On aurait dû préciser cela très clairement. Sincèrement, que ça ne me gêne, bon, à titre personnel, ça ne me gêne pas, ça ne me surprend pas non plus, mais je prends... disons que je note aussi que cela, en tout cas, a gêné déjà une partie de la classe politique. Certains ont déjà fait des conférences de presse, d'autres l'ont fait savoir par d'autres voies autorisées, pour dire que, en l'état, la mise en place du Conseil pose problème. Si ça a pris autant de temps, c'est qu'il y avait des tractations qui n'ont pas permis aux uns aux autres de se mettre d'accord sur la clé de répartition, notamment de la composition du bureau, parce que tout cela se décide un peu en amont. Que des militaires s'arrogent 22 postes en soi, ça atteste leur volonté d'avoir leur main mise sur le conseil, parce que si vous avez 22, dans les autres corporations aussi, il y a des personnes qui peuvent être des soutiens importants. L'idée, c'est peut-être de faire passer éventuellement certaines lois, parce qu'on sait quand même que c'est un organe législatif. Or, les jeunes représentent 75% de la population malienne, donc les jeunes auraient pu avoir plus que 4 postes. Les femmes représentent 51% environ de la population. Donc, on aurait pu indiquer que, par exemple, les femmes... en tout cas, on aurait pu dire, par exemple, 30 femmes. On aurait pu être très plus explicite, quoi. Moi, il y a un 10 sous roche. Hein.
Mais quand on fait la comparaison militaire-civil, il y a 99 civils, 22 militaires. Qu'est-ce qui pose problème à ce niveau, selon vous?
Bon, ce qui pose problème, c'est que les partis politiques, quand on dit, par exemple... un organe législatif, ça fait appel à d'autres compétences. Les militaires pourraient pu se contenter de 5 à 6 postes. Ça suffisait largement si c'est des gens qui les représentent. Et maintenant, le reste, on laisse ça à la société civile, aux femmes, aux jeunes et puis aux partis politiques.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Dr Brima Ilidiko, monsieur?
Bon, je suis désolé, mais on dirait qu'il y a une sorte de verre à moitié plein ou à moitié vide dans son analyse, je veux dire. C'est-à-dire, quand vous lui demandez est-ce que 22, c'est pas trop quand même, vu quand même 90 pour les civils, il dit que non, il y a un qui sous roche et puis beaucoup d'autres choses. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que cette méfiance que nous avons envers les militaires, c'est ce qui a la vie très dure. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est dû simplement au fait qu'on a toujours gardé les militaires à la périphérie. Parce qu'il n'y a pas eu des fusillades ou bien des guerres pour libérer ces pays.
Cette méfiance que nous avons, nous c'est qui?
Nous, l'élite politique surtout. Mmh. L'élite politique. Vous voyez, l'armée s'est composée de quoi? Ça a été composé de qui et de quoi? voyez, à l'indépendance, avant l'indépendance, qu'est-ce que nous avions? Pendant la colonisation, qu'est-ce que nous avions comme armée? Et au sortir de la colonisation, nous avions quelle sorte, nous avons constitué quelle armée? C'est une armée des gens périphériques dans la société. Et l'élite politique a tout fait pour les garder hors du jeu politique. Voyez, et c'est ce qui continue. Maintenant, vous gardez des gens hors du jeu politique et vous vous battez pour la démocratie. Il y a des gens qui meurent et tout. Et cette démocratie, ça vous prend 30 ans pour mettre les pays à terre absolument. Vous, les civils?
Donc vous pensez que les militaires doivent faire la politique aujourd'hui?
Je crois que les militaires, c'est-à-dire, si vous dites que les militaires ne doivent pas faire la politique, vous...
Non, la question c'est, est-ce qu'ils doivent faire la politique?
Ils doivent faire la politique. Si les verrous sautent jusqu'à eux, ils doivent réagir. Mais en Occident, les verrous ne sautent pas jusqu'à eux, sinon ils vont réagir. Leur travail, c'est sauvegarder l'État. Vous voyez, qui peut me dire que les comportements des 30 dernières années étaient vraiment dans le sens de garder le Mali intact? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu de la classe politique? Cette méfiance aussi, les militaires l'ont envers nous, les civils. Vous voyez, donc moi je crois que cette transition, elle doit se faire avec l'apport de chaque Malien, n'est-ce pas? Que vous soyez dans une structure ou pas de la transition, vous devez participer parce que nous gagnerons tous à mettre fin à ce qui se passe au Mali.
Fatima Maïga disait que des questions se posent pas seulement par rapport à la composition de ce Conseil national de transition, mais à plusieurs niveaux parce qu'il y a plusieurs nominations qui sont faites et les militaires occupent plusieurs postes à ce niveau.
Bon, moi j'ai vu beaucoup de nominations, il y avait certes des militaires, mais il y avait plein de civils qui ont été nommés aussi. Le dernier conseil des ministres a nommé beaucoup de civils dans tous les départements. Donc moi je crois que les gens, c'est répétitif, c'est-à-dire on est allergique à ce qu'on voit est militaire. Vous voyez, ça a été entretenu. On les a vilipendés, on a mal parlé d'eux, et quand ils se font tuer, on marche pour dire qu'on les soutient. Mais en réalité, nous n'avons montré que du mépris.
Mais ne se sont-ils pas engagés pour cela, défendre les populations, sécuriser le territoire?
Sécuriser les territoires, défendre les populations. Mais s'il faut sécuriser un territoire et défendre les populations après 30 ans de destruction de cette armée, moi je crois qu'il va falloir faire un tour d'horizon pour voir où est-ce que ça a calé. Et là, les gens savent où est-ce que ça a calé. Ce n'est pas du côté des militaires. Les hauts fonctionnaires de défense, on les a retirés de l'armée pour les mettre dans les bureaux des ministères.
Fatima Maïga, quel est votre point de vue sur cette analyse de M. Niang?
Oui, j'ai presque envie de sourire parce qu'en fait, ce n'est pas le peuple qui a une méfiance ou qui maintiendrait les militaires en dehors du champ politique, mais c'est la Constitution. Ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place dans la Constitution du Mali. D'ailleurs, lorsque nous avons commencé, je fais partie du M5, à faire ce mouvement citoyen pour le changement, on était protégé par un article de la Constitution qui nous permettait la désobéissance civile lorsque le caractère républicain de l'État était en jeu. Et donc, pas de coup d'État en Afrique, pas de coup d'État au Mali. Ça, c'est le Mali aussi qui le veut. Il fait partie de la CEDEAO. Tout ça, c'est déjà bien compris. Le Mali a sa constitution qui explique bien qui fait quoi. Et les militaires, eux, ils sont d'accord, n'ont rien à voir dans le champ politique. Ces transitions sont des transitions qui viennent à la fin de cycle pour lesquelles nous ne pensons pas qu'ils sont étrangers. De cycles de déstabilisation dus à des échecs. Ce pays a été dirigé plus longtemps par des militaires que par des civils. De Moussa Traoré à Feu Manitou Touré, à maintenant ceux qui sont là. Donc, ils sont en co-responsabilité. Et peut-être que ce que je dois dire, la méfiance que les Maliens peuvent avoir, c'est le fait que, souvent, un peu comme les politiciens, il y a un grand fossé entre ceux qui disent et ceux qui font. Rappelez-vous, lorsqu'ils sont venus au 18 août, si je ne me trompe pas, les premières déclarations quelques jours après, c'était de dire « Nous sommes venus parachever votre œuvre », en parlant du mouvement citoyen qui a mis fin au régime de Moussa Traoré, de Ibrahim Boubacar Keïta, et qui voulait, plus qu'un changement de régime, qui voulait un changement de système. Ils sont venus donc parachever un changement. Nous ne voyons pas ce changement, en tout cas, dans les actes qui sont posés. Ça, c'est un autre débat que je veux poser de côté. Ils ont aussi dit qu'ils remettraient le pouvoir aux civils. La CEDEAO s'en est mêlée, la CEDEAO est intervenue selon ses textes, et un certain nombre d'accords étaient posés. Nous ne nous retrouvons pas par rapport à l'organisation du CNT. Le fait qu'ils sont majoritaires, c'est que c'est le bloc le plus cohésif qui soit majoritaire. Et encore une fois, pourquoi ? Moi, c'est sur ça que je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, parce que le débat devrait tourner sur pourquoi, quels sont les critères en fonction du travail, du job, si je peux m'exprimer d'une façon un peu vulgaire. Le job du Comité national de transition, qui a une fonction législative, c'est d'accompagner les réformes. Et vous voyez, dans la feuille de route quand même de transition, il y a tout un axe, l'axe 4 qui parle de réforme est assez substantiel parce qu'il faut réformer la réorganisation administrative et territoriale, il faut réformer le système électoral, et la Constitution qu'on doit reformuler et adapter. Donc, en quoi vous pouvez m'expliquer que des militaires qui sont restés pendant plusieurs années en dehors du champ politique, de ces questions politiques très profondes, institutionnelles, ont un avantage comparatif. Et encore une fois, par rapport à leur prééminence, sans discussion, sans consensus, avec leur prééminence dans l'exécutif, si on peut le dire comme ça, à la tête de l'État, à la vice-présidence et à toutes ces fonctions qui ont été, ces nominations ont été faites par décret. Regardez le journal officiel. Ils ont déjà plus que la mainmise. Ils sont surreprésentés à ce niveau-là. Est-ce qu'ils doivent aussi être représentés dans cet organe qui est un ersatz d'Assemblée nationale, qui n'est absolument pas légitime en tant qu'assemblée, mais qui va avoir des fonctions législatives très importantes pour le peuple malien, qui en appelait à un changement de système. Un changement de système, la refondation, ça se fait avec des réformes. Ont-ils les outils qu'il faut? Ont-ils la compréhension des enjeux? Eux qui ont été justement, comme vous le dites, écartés, et à bon droit, ils ont été écartés parce que leur statut les empêche, et peut-être aussi par des failles, puisqu'ils ont été dans la gouvernance. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que ceux qu'ils ont voulu mettre en minorité, notamment le M5, qui a un projet très cohérent de changement institutionnel, de changement de système, ce qui n'est pas encore le cas, parce que la feuille de route, croyez-moi, n'est pas un plan d'action qui doit venir et que ce comité doit suivre. Donc, la question fondamentale est pour eux de convaincre non seulement qu'ils restent en droite ligne de ce qu'ils ont promis au peuple malien, parce que si on ne veut pas la méfiance, on fait ce que les Maliens aiment, c'est garder la parole et respecter la parole qu'Alaoudi dit qu'a amené. Ça, déjà, ils le font. Et ils laissent les civils compétents, avec les critères, mener en majorité, de façon cohésive, sans leur implication ou sans, en tout cas, l'ombre de leur mainmise, ce comité qui est censé nous avancer dans les réformes fondamentales pour le projet de société pour lequel il y a eu cette transition et pour lesquels ils disent être venus pour parachever une œuvre déjà en cours et qui n'est pas la leur.
Et plusieurs formations et regroupements politiques ainsi que des organisations syndicales affirment ne pas se reconnaître dans cet organe, alors que la clé de répartition des modalités de désignation des membres du CNT ont été publiées ce mardi. On écoute ce reportage de Imran Akilou Maïga, un papier sur le sujet.
C'est la Confédération syndicale de travailleurs du Mali qui a donné le ton. Réunie ce mercredi, la CSTM a annoncé qu'elle renonce aux quotas attribués aux organisations syndicales au sein du CNT. La centrale syndicale dénonce sa non-concertation au préalable pour la composition de l'organe législatif de la transition. Même reproche du côté du M5-RFP, le mouvement de contestation contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. En conférence de presse ce mercredi, le comité stratégique du mouvement du 5 juin a décidé de ne pas participer au CNT. Ses responsables du dénonce une militarisation des institutions et une négligence envers les partis et mouvements politiques. Autre regroupement politique à bouder le CNT, c'est la coalition des forces patriotiques COFOP. Elle dénonce également l'absence de concertation, une tentative de confiscation du rôle des politiques. Une entrave à la démocratie, un danger pour l'avenir du pays, alerte les responsables de la COFOP. Le parti élément de l'ancien premier ministre Moussa Mara dit lui aussi prendre acte de la clé de répartition et les modalités de désignation des membres du CNT. Le parti précise qu'il a décidé à l'issue d'une réunion extraordinaire de ne pas postuler pour des sièges du Conseil de transition. Selon ses responsables, le parti peut jouer sa partition de la réussite de la transition sans pourtant être dans ses organes. Après ces nombreux désistements, comment la mise en place du CNT va-t-elle se faire maintenant? Les autorités de la transition vont-elles revenir sur les degrés sur la répartition et la désignation des membres du CNT? Des questions qui restent sans réponse pour le moment.
Des questions sans réponse pour le moment et le M5-RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui appelle les forces et la classe politique à se mobiliser pour obtenir le changement. On écoute la réaction de Choguel Kokala Maïga, membre du M5-RFP.
Le nombre qui est affecté au M5-RFP est tout à fait ridicule. Cette répartition est faite essentiellement à des vins, à des objectifs stratégiques. Diviser le M5, diviser la classe politique. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le M5-RFP, je dois le rappeler, est la principale force du changement. On ne peut pas accepter que dans une assemblée de 121 membres, le M5-RFP ne soit représenté que par 8 membres. Et de surcroît, ces 8 membres doivent être choisis sur 16 personnes par le vice-président de la transition. En un mot, on veut faire du M5-RFP un figurant. Le rejetons, nous l'ignorons d'ailleurs. Et nous appelons l'ensemble des forces patriotiques maliennes, des forces politiques, à se tenir mobilisées pour imposer le changement.
Un boycott du Conseil national de transition. Brema Ilidiko, est-ce que la situation est en train de s'arranger ou de se détériorer?
Peut-être, disons que c'est toujours difficile de mettre en place une telle structure. Après, nous sommes dans une période d'incertitude. Après, ils vont se parler, ils finiront par trouver une clé de répartition qui convienne. Un décret a été signé par une personne, donc la personne peut bien reprendre le décret. On se rappelle, en son temps, il y a eu le code des personnes de la famille, donc les gens ont manifesté. Et finalement, le président a décidé de se soir à cela. Donc, il y a une contestation et que des réformes sont nécessaires, notamment la révision de la Constitution, la réforme du système électoral. Tous ces grands chantiers nécessitent l'adhésion de l'ensemble des forces vives. Et s'il y a des contestations des acteurs clés au Mali, peut-être qu'il y a d'autres qui feront savoir leur position dans les heures qui viennent, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans ce Conseil national de transition afin que les lois qui vont être adoptées puissent aussi faire plaisir, en tout cas convenir à l'ensemble des forces vives. Sinon, c'est difficile dans ces conditions de réviser, par exemple, de proposer en tout cas la révision de la Constitution par référendum si les gens ne se retrouvent pas dans le Conseil. Ils sauront le faire. Hein. Moi, je pense ce qui m'a un peu tiqué, c'est que c'est le président Banda ou le président de la transition et le vice-président, normalement, s'occupe des questions de défense et de sécurité. Et si le dossier avait été envoyé au secrétaire général de la présidence, bon, ça n'allait pas sembler étonnant, mais dans ces conditions-là, on se pose bien des questions. Ça ne fait pas quand même partie de ses prérogatives telles que stipulées par la charte qui a été publiée au Conseil, au journal officiel. Mais bon, quand cela ne tienne, il est important, je pense, de se rendre compte que la transition, il ne reste que 16 mois et qu'au bout de 16 mois, il faut organiser des élections libres, crédibles, transparentes et qu'avant d'organiser ces élections, il faudrait revoir le système électoral pour éviter les travers qui nous ont conduits dans quoi nous sommes aujourd'hui et que pour aller très vite, il est important que le président Banda ou son vice-président organisent un cadre de dialogue pour que la confiance puisse être établie et que les gens puissent s'accorder sur une autre clé de répartition, éventuellement.
Que pensez-vous, M. Niang, de ce boycott de plusieurs formations et organisations?
Bon, en fait, je ne peux pas passer sans quand même faire un clin d'œil à son sourire à ce que j'ai dit. Moi, j'ai souri quand on parle de la constitution de 92, quoi. Mm. Parce que cette constitution-là, tout le monde sait que c'était un passoire. Les 30% qu'on a donné aux femmes, ça viole cette constitution. Mais les femmes n'en ont pas parlé. Parce que les titres premiers de cette constitution nous dit que tout acte qui donne avantage à un groupe basé sur les sexes, la religion et autres, n'est-ce pas, est proscrit. N'est-ce pas? Et pourtant, quand l'ancien président a pris cette loi des 30%, personne n'a dit mot, alors que ça violait la Constitution.
Et nous mais aurons la charte d'autres occasions pour développer cette idée-là.
Oui, mais la charte l'a corrigé quand même. La charte
par rapport à ce Conseil national de transition, la Constitution. Par rapport à ce Conseil national de transition qui est l'objet du débat aujourd'hui,
oui, oui,
le boycott que c'était la question, ça, le boycott de ces différentes organisations, qu'en pensez-vous?
Je n'appellerai pas ça un boycott. C'est-à-dire que quand vous prenez le M5, comme je vous l'ai dit, les M5, avant que les 5 juin arrivent, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont succédés et qui ont fait qu'on a pu mettre un groupe qui s'appelle les M5, groupe hétéroclite, hétérogène, n'est-ce pas, avec des gens, avec des intérêts divergents qui se sont réunis, certains pour la refondation de l'État, d'autres pour changer de gouvernance. Vous voyez? Donc, quand après un mois et plus, même 2 mois, chaque jour les mêmes choses, et la Constitution est très claire, nous avons le droit à la désobéissance civile. n'est-ce pas? Mais maintenant, cette désobéissance civile, on sait ce que c'est. Moi, j'ai milité dans les M5 et je me dis que je suis même membre fondateur du M5. Vous voyez? Donc, quand vous amenez les M5 à travers son comité stratégique pour parler de ce qui a été dit en relation avec les CNT, moi, je me dis simplement que ce n'est pas un boycott. Il y aura toujours certainement des gens qui vont voir qu'il faut refonder ce pays. Il faut qu'il y ait des réformes pour qu'on puisse sortir de cette chose. Et ces gens vont venir en tant que Maliens pour participer à ces débats et essayer de sortir quelque chose au bout des 18 mois. Maintenant, quand vous dites qu'il y a ce groupe qui ne voulait pas ou autre, certains, même par dignité, ne veulent même pas être dans ces CNT. Parce qu'ils se sont battus bec et ongles.
Vous disiez que c'est plusieurs mobilisations qui ont conduit à la création mouvement du 5 juin RFP. Oui, oui. Mais n'est-ce pas ces mêmes mobilisations qui ont conduit à la mise en place du Conseil national pour le salut du peuple?
Mais ces mêmes mobilisations, comme vous avez parlé de parachèvement, il a fallu parachever.
J'ai pas parlé de parachèvement, c'est Mme Maïga qui a rappelé.
Bien sûr, mais on est dans un débat.
Le discours justement, des représentants
justement,
du CNSP.
Parachever et autres, c'est sans complexe et ça doit être assumé. Parce que moi, je vous l'ai dit, les militaires, c'est un service public dont le travail est de sauver l'État, de sauvegarder les intérêts de l'État. Maintenant, si il y a une classe politique, n'est-ce pas, qui est dans la logique des postures dangereuses, alors si les civils, les partis politiques, les associations de la société civile, tout ce que vous voulez, les religieux, tout se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour apporter ces changements, si les militaires s'y mettent, moi je ne vois pas du tout quelque chose qui dit que les militaires ne doivent pas piloter cette transition.
Et même, c'est même là, la Constitution.
C'est ça la problématique. Je vous dis que la Constitution, quand vous en parlez, vous me faites sourire. La Constitution est
en
82,
tant que constitutionnaliste.
Je l'ai combattue parce que c'était une mauvaise Constitution. Une Constitution qui crée des demi-dieux sur qui on n'a aucun contrôle. Voilà le problème de la Troisième République.
Mais avons-nous un autre texte au Mali sur lequel se baser, si ce n'est cette Constitution?
C'est cette Constitution-là, nous allons refonder l'État malien de la manière dont on conquiert le pouvoir jusqu'à son exercice.
Oui, mais en attendant, n'est-ce pas cette Constitution qui devrait être la base de toute chose?
Non, elle ne peut pas être la base de toute chose. Elle complétera la charte qui a été acceptée par tous.
Alors, est-ce que vous pensez que ces différentes revendications des différentes organisations, partis politiques, devraient être prises en compte par les autorités de la transition?
Je ne crois pas, parce qu'en réalité, c'est-à-dire il y a 121 membres dont on a besoin. Vous voyez, si on était à 300 et quelques, peut-être que tout le monde aurait été satisfait dans ce partage des gâteaux, si on veut, parce que...
C'est un partage de gâteaux.
Non, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent un partage des gâteaux, alors qu'on veut des gens, qu'ils envoient des gens qui peuvent aider à la refondation du Mali. Comme elle l'a dit, les militaires... Elle dit que les militaires, il faut des gens qui ont la capacité de faire le travail et tout. Moi, je vois très peu des gens dehors qui peuvent faire ce travail parmi ceux qui se sont agités pendant 30 ans dans la gestion de ces pays.
Fatima Maïga,
je vois très peu.
De la transition doivent-elles prendre en compte ces différentes revendications?
Et desquelles?
Celles des partis politiques, du mouvement du 5 juin. Il y a un boycott à travers le pays concernant cette clé de répartition.
Moi, ce n'est pas pour être polémique, mais je crois que les termes des débats doivent être conformes à ce qui a été dit. Est-ce que c'est du boycott? Je pense qu'il dit simplement « nous ne sommes pas d'accord en fait, nous n'allons pas rentrer parce que les propositions ont été faites d'une manière, dans le fond et dans la forme, qui ne conviennent pas ». Donc, plutôt que de penser que c'est un acte de confrontation, je pense que les autorités et le chef de l'État, M. Mbadao, le président, devraient voir ça comme une offre de revoir sa Kofi. Et il y a suffisamment de raisons. D'abord, encore une fois, comme je le dis, il y a tout un processus à travers lequel il y a eu des manquements à des paroles. Et c'est ça que le peuple attend. Le peuple veut un changement. Il a dit qu'il était plus ou moins indifférent qu'il vienne par des autorités civiles ou militaires, mais ils veulent le changement. Et ce changement ne peut arriver que dans un environnement apaisé. Lorsqu'on doit faire une réforme électorale, donc du processus électoral, en mettant en porte-à-faux déjà les forces politiques qu'on semble diaboliser, ce n'est pas ce n'est pas pour moi propice. Il va y avoir des difficultés. Lorsqu'on doit réformer la Constitution, sachant ce qui s'est passé en 2017, que ça n'a pas pu aboutir, justement parce qu'il y a une levée de boucliers et des forces politiques et des forces civiles et des syndicats, alors il faut se poser la question de savoir est-ce qu'en tant que transition, nous sommes plus forts que ceux qui ont plié. Et moi, je vous dis non. Alors, ce qui importe au peuple malien, c'est que la transition, les autorités de transition ne créent pas plus de problèmes qui en avaient. Ils sont venus pour en résoudre et certainement pas pour en ajouter. Donc moi, je résume. Je pense que la forme à travers laquelle les choix, la clé de répartition a été faite, pose problème, pas seulement du point de vue... Il y a un rejet, par exemple, les organisations des femmes, dont on a parlé de 4 femmes. Leur a-t-on donné le temps? De quelles femmes parlons-nous? Des fêtières? Vous savez combien d'organisations de femmes il y a au Mali? Est-ce qu'on présuppose qu'il y a un consensus obligatoire qui doit se former en moins de 48 heures? Parce qu'entre la publication du décret le 9 et la date limite, c'était... Pour ceux qui étaient informés donc à Bamako, les régions, les femmes des régions ne sont même pas informées, à plus forte raison être impliquées dans le processus de sélection. Donc il y a des problématiques, des problèmes, je dirais, objectifs à la forme. Ça peut être vu, il faut donner plus de temps, il faut préciser qui est responsable en fait de désigner. Est-ce qu'on parle des fêtières? Et si oui, quelles fêtières ont proposé les noms? Ça parle de vous, la presse, les femmes. On a créé beaucoup de problèmes. Et je ne pense pas que dans le décret, on nous explique comment ces problèmes vont être résolus. Je vous donne l'exemple de la question des femmes. La représentativité des femmes est obligatoire. Et en plus, je suis obligé de répondre à mon co-débatteur lorsqu'il dit que la charte et la transition fait mieux que la loi anticonstitutionnelle de la loi 052, qui est bien sûr pas anticonstitutionnelle parce que c'est une loi temporaire, c'est une loi qui parle de mesures sans nommer ni les femmes ni les hommes. Et faisant partie des artisans de cette loi, je sais très bien pourquoi on a fait ça. Elle n'est pas anticonstitutionnelle, elle n'impose pas un minima. Je veux dire, elle n'impose pas un cap, ça veut dire qu'il faut au moins que les hommes ou les femmes soient à 30% représentés dans les postes nominatifs et électifs. Alors que si on parle d'égalité, c'est 50%, ou si on prend en compte la réalité du Mali, c'est 89%, parce que c'était 89% d'hommes qui étaient représentés dans l'Assemblée qui vient avant en 2013. Donc on revient, on pourra faire un débat sur ça. Il faut... À mon avis, je vais me taire sans donner des injonctions à une transition qui semble, je pense en tout cas, faire les choses pas souvent de façon apaisée, ou en tout cas de façon suffisamment consensuelle. Il faut prendre la mesure de ce que ça voudrait dire qu'un nombre aussi important de segments, parce qu'on n'est pas dans un rapport numérique, on est dans un rapport de force. Est-ce que lorsque les partis politiques ne viendront pas dans le CNT, alors qu'elles sont impliquées dans la réforme qui doit... Le président de la République a dit que sa mission fondamentale, c'est qu'à la fin de la transition, il y ait des élections incontestées et apaisées. Mais comment est-ce qu'il va y arriver s'il n'arrive pas à réformer parce que les forces vives qui devaient l'accompagner n'ont pas eu confiance dès le début? Donc je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme, il faut éviter au peuple malien une transition stérile parce qu'elle n'aura pas réussi à créer les conditions d'un consensus qui, à mon avis, sont tout à fait atteignables pour peu qu'on prenne la mesure des choses et qu'on fasse aussi un peu de modération et un peu moins d'arrogance. Moi, je suis obligé de le dire, il y a une forme d'arrogance dans cette possibilité de penser qu'ils viendront de toute façon ou s'ils ne viennent pas, on ira de l'avant, mais on ira de l'avant droit au mur. J'en suis persuadé.
Le CNSP avait promis de rendre le pouvoir à des civils, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout le contraire. On assiste aujourd'hui à un coup d'État dans un coup d'État. C'est ce qu'estime le politologue Cheikh Amadou Tidiane-Sy qu'on va écouter.
Il faut de bonne moralité, ne pas avoir une condamnation pénale, je suis d'accord, mais avoir les compétences requises, je ne comprends pas, c'est pour mettre de côté certaines franges de la population. Est-ce qu'on peut dire qu'un illettré n'a pas de compétences? Mais tu peux être une autorité traditionnelle, mais être un lettré. On peut être illettré et être compétent. C'est en fait un coup d'État dans un coup d'État en réalité. Ils ont dit qu'ils rendront le pouvoir à des civils. Et ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout le contraire. Ils dirigent tout. Qui va assurer la sécurité? Un autre problème, ils ont dit que les dossiers doivent être envoyés à Assimi Goïta, le vice-président. L'administration territoriale, peut-être, ça peut se comprendre, mais pas le vice-président. C'est vraiment pas sérieux ce qu'ils sont en train de faire.
Un coup d'État dans un coup d'État. Êtes-vous d'accord, docteur Brema Ilidiko?
Oh,
Non, ce n'est pas l'expression que je vais utiliser. Simplement, je voudrais rappeler que la transition, elle est faite pour durer pour 18 mois et que nous avons déjà 2 mois écoulés. Donc, on a 16 mois. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord pour mettre rapidement en place le CNP qui doit voter les lois, etc., donc ça va être compliqué. Donc, je voudrais simplement inviter les dirigeants d'aujourd'hui, le président Bandaou et le président Assimi Goïta, à se hâter lentement, en tout cas à créer un cadre apaisé de discussion avec qui de droit pour que ce conseil soit le plus inclusif possible et qu'on puisse aller vers les réformes. C'est ce qui est important parce qu'un bras de fer dans un contexte de grogne sociale n'arrange personne. Et il faudrait qu'ils prennent une mesure, en tout cas cela en considération parce que bon, avec les armes, on ne peut pas s'imposer longtemps. Le Mali est un pays en crise. On a des villages entiers, Farabougou et autres, qui sont assiégés. Bientôt, c'est tout le Sahel occidental. Donc, c'est important que les Bamako, la situation s'apaise rapidement parce que le Mali ne se limite pas à Bamako. En fait, le débat Bamako-Bamakois, et on finit par, je pense, baisser la garde alors que les terroristes sont en train de rôder autour de nous. C'est simplement ce que je voulais dire. Ça n'est pas si long.
Vous l'avez rappelé deux fois, 18 mois de transition, 2 mois sont presque écoulés. Est-ce que vous craignez que cette transition dépasse les 18 mois?
Je ne le souhaite pas, parce qu'une transition est une période d'incertitude. Lors d'une transition, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Il est important qu'on crée les conditions d'une élection libre, crédible, transparente. Et pour ça, il faudrait arriver à assurer la sécurité, au moins dans les grandes villes, pour que les élections puissent s'organiser partout. Il faut arriver à revoir le fichier électoral en prenant en compte les 300 000 déplacés, les 120 000 réfugiés, en prenant en compte la diaspora parce qu'elle est mal recensée, et ensuite à faire en sorte qu'on ait un seul organisme possible des élections, sortir de ces structures interminables qui s'occupent de ça, et tout ça, par exemple, introduire la proportionnelle, des choses comme ça. Donc il y a énormément de choses à faire, et si on n'a pas un conseil national, on ne peut pas le faire. Et donc, moi, j'ai l'impression que tant qu'on ne mettra pas en place le Conseil national de transition, c'est difficile même de se prononcer sur la question de la durée, parce que les réformes sont nécessaires avant la fin de la transition. Sinon, si la transition venait à se terminer dans ces conditions, on va arrêter de lutter, quoi.
Les militaires veulent-ils tout diriger, se demande le politologue Cheikh Amadou Tidiane Sy. Alors, je vous adresse la question. Est-ce que les militaires veulent tout diriger aujourd'hui?
D'abord, j'ai capté d'abord le fait que on dit que les militaires ont promis de donner les pouvoirs aux civils. Mais de quel pouvoir s'agit-il? Un pouvoir sorti des urnes, comme ils veulent le dire, ils aiment l'entendre, ou bien le pouvoir, la transition? Parce qu'il n'est pas question que les militaires s'effacent au profit des civils pour construire une transition, parce que les civils, c'est ce que j'ai dit.
Il n'est pas question, vous avez échangé avec eux, c'est leur point de vue.
Non, je veux dire, la question ne se pose pas que les civils, n'est-ce pas, gèrent cette transition totalement et exclusivement des militaires, vous voyez.
Et quand pourquoi il n'est pas question?
Il ne peut pas être question de cela. Pourquoi? Simplement parce que nous, civils, politiques, et enseignants et autres, n'est-ce pas? Je ne parle pas de ces viviers qui est à Bamako ici et qui protestent et autres. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des Maliens, des populations. C'est l'un des rares qui a fait le tour de plusieurs régions pour voir la température et ce que les populations pensent de cette transition. Voyez, si quelqu'un a déçu les Maliens, c'est les politiques. Ça, personne ne peut aller contre cet argument.
Vous n'oubliez pas le manque de confiance entre les forces armées de défense au niveau local avec les populations. Est-ce que vous n'oubliez pas également les cas de corruption qui sont signalés au niveau de l'armée? Parce que Mme Maïga disait tout de suite qu'il y a une responsabilité partagée.
Ces cas de corruption au niveau de l'armée, n'est-ce pas? C'est ce qui interpelle les politiques aussi. Parce que, en réalité, les politiques ont joué avec des gradés, paraît-il. Avec des gradés, je parle par rapport aux 1230 milliards qui ont été détournés. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas remonter ces fils sans toucher aux civils qui avaient la mainmise sur le processus.
Et je reviens sur la première question. Oui. Les militaires veulent-ils tout diriger? Parce que c'est la question que se pose Cheikh Amadou Tidiane Sy.
Vous avez la liste de ceux qui doivent participer au CNT.
Est-ce que c'est exclusivement des militaires? Non. Il y a 80 plus qui sont des civils.
Non, il ne dit pas est-ce qu'ils veulent tout prendre, mais est-ce qu'ils veulent tout diriger? La présidence, le vice-président est déjà...
Le premier ministre est civil. Le vice-président, ça a été accepté qu'un militaire qui va à la retraite...
Donc votre réponse est non, ils ne veulent pas tout diriger.
Ils ne veulent pas tout diriger. Mais tout de suite, madame... Non, je vous en prie. Allez-y. Madame vient de dire tout de suite que ATT, c'était un régime militaire. Vous voyez? Donc, les choses changent selon les besoins du moment. Sinon, ATT, pour qu'il soit candidat, on a d'abord argumenté à la télé...
Est-ce qu'elle a dit que ATT, c'est un régime militaire ou ATT était un militaire?
Elle a dit que c'était un régime militaire. Alors, parce qu'on parlait des régimes.
Oui, non. J'ai parlé de l'association des militaires à la gouvernance de ce pays. Et le temps qu'ils ont passé à la gouvernance est presque aussi long que les civils. Et donc, ils sont co-responsables.
La question, les militaires veulent, avez-vous l'impression que les militaires veulent tout diriger?
Moi, je crois que la sagesse, puisqu'on parle de pouvoir, serait de reconnaître que dans un pays qui va plus mal aujourd'hui qu'en 2012, qui contrôle moins de territoires qu'il ne contrôlait en 2012, a en fait très peu de pouvoir aujourd'hui, oui. On a très peu de pouvoir entre nos mains. On est très peu souverain sur beaucoup de choses. La sagesse pour ceux qui sont au pouvoir, en guillemets, c'est de le prendre de façon métaphorique. Ils ont très peu de marge de manœuvre. Le pouvoir dont ils semblent qu'ils peuvent s'être arrogés ou qu'ils pensent de tenir, ce que le peuple malien veut leur dire, c'est qu'ils l'ont pas. Pas encore, ils n'ont pas le pouvoir de les sécuriser. Farabou est là, malgré les bonnes intentions, malgré les efforts qu'on salue. Ce pays est dans une situation critique, justement par manque de pouvoir. Il faut refonder beaucoup de choses. Il faut refonder le maintien de ce pouvoir, les règles de répartition de ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'on en appelle vraiment à la sagesse, à de la rétrospection, sans être dans la philosophie. Il n'y a pas d'hommes forts dans ce pays, il n'y a pas d'institutions fortes, la preuve c'est qu'ils sont là, et donc le pouvoir est au peuple. Et ce peuple-là, s'il se retrouve dans des civils, pas seulement les politiciens, parce que le M5 c'était avant tout, et de façon prédominante, une population civile très forte, de jeunes, de femmes, j'en fais partie, avec un besoin, une volonté, une aspiration de changement très clair.
Et rapidement, 30 secondes
pour tout le monde. Et je veux résumer à ça, c'est-à-dire c'est que
vous aurez la parole tout à l'heure. Docteur Dico, tout à l'heure, vous aurez la parole. Docteur Dico, en 30 secondes, que faut-il faire pour avoir un Conseil national de transition qui répond aux attentes des Maliens?
Bon, je pense que le dialogue, c'est moins d'appétit.
À vous, Bailanian.
Mais vous parlez du peuple ou des Maliens? Parce que quand vous dites du peuple, là, c'est très, 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 très dangereux. Parce que c'est une sorte de désinformation que vous faites.
Le peuple n'est-il le pas peuple, malien?
Non.
Les Maliens?
Non. Je ne suis pas d'accord avec cette appellation.
Monsieur, aujourd'hui pour un Conseil national de transition qui répond aux attentes des Maliens?
Les Maliens s'attendent à ce que tous les Maliens, tous ceux qui veulent participer à ça, n'est-ce pas? Ils s'attendent à ce que chacun laisse son ego de côté et se mette au travail, soit dans les CNT ou dans les gouvernements, ou en dehors, pour faire...
Merci, Monsieur Nyang. Voilà. À vous, Madame Maïga, que faut-il?
Je pense qu'il faut de l'équilibre. Et cet équilibre, doit se mesurer par rapport à tous les organes. Il y en a trois. Et ces organes-là, aujourd'hui, sont surreprésentés par les forces de défense et de sécurité. Donc, pour l'équilibre, et si possible civil, il faut revoir la clé de répartition et le processus également qui est en train d'amener à la mise en place du CNT.
Merci à nos invités, Dr Brema Eli Diko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako, Fatima Maïga, de la Coalition des femmes leaders du Nord, du Centre et du Sud, Baila Nyang, constitutionnaliste, à la régie vidéo et audio Gagné Kanté, et Mamadi Keïta, je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour le forum de la presse de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Haloud Mouni.
Chienne Beri, Sigi Kafoba.